RCF. Le magazine régional diocésain et local dans cette semaine de 18h10 à 19h. Bonjour à tous. Au sommaire de notre édition, notre chroniqueur du jeudi, Gérard-Marie Henry, il sera question bien évidemment d'économie. On parlera bien sûr des maires et aujourd'hui ce sera Philippe Lantenois, le maire de Novion-Porcien dans le département des Ardennes. Journal régional à 18h30, on reviendra sur les déclarations de Jean-Marc Rose qu'on écoutera plus complètement dans la seconde partie de notre édition. On écoutera également Pierre Possémé de la Fondation du Patrimoine avec Bernard de Lauriston. On les écoutera complètement la semaine prochaine, extrait ce soir dans notre journal. Et puis on écoutera Josette Defranou. Elle nous parlera de Burkina Entraide, un concert de chorale qui se prépare. Et avant de démarrer notre édition et de retrouver notre chroniqueur, feuilletons un peu les pages de notre agenda. Sachez que demain matin, à 7h et 8h, ce sera en direct, vous pourrez entendre Mgr Étienne Véteux, qui reviendra sur le carême, évidemment, mais aussi qui enregistrera, et c'est une émission que vous pourrez écouter sans doute la semaine prochaine, une émission spéciale sur le sacrement de réconciliation en cette période de carême. On reviendra également dans l'édition tout à l'heure, j'en parle maintenant parce que on ne l'a pas mentionné, que Orgeval, et c'est un des titres du journal L'Union d'aujourd'hui, Orgeval est privé de poste et de distributeur automatique déjà depuis juin 2023. Depuis la fameuse nuit d'émeute et de violence urbaine, les habitants d'Orgeval doivent faire sans bureau de poste, la situation devient lassante, la poste promet une réouverture dans 2 mois. On aura l'occasion bien sûr d'y revenir. Mais tout de suite, question d'économie, bien entendu le regard acerbe et le regard zélé de Gérard-Marie Henry au micro d'Alexis Claudretz.
La question d'économie avec Gérard-Marie Henry. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
C'est les vacances en ce moment sur RCF et pour certains il n'y a pas de vacances, notamment les footballeurs qui sont en pleine compétition internationale et notamment la Ligue des Champions qui est une compétition tant convoitée. Et si je vous parle de foot aujourd'hui, Gérard-Marie Henry, c'est parce qu'il y a un footballeur parmi tant d'autres qui convoite cette Ligue des Champions. C'est peut-être un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, Kylian Mbappé, qui a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain.
Ah oui.
Ça, c'est la nouvelle dans le monde du football. Ça a été un petit peu un choc.
Oui, oui, c'est assez intéressant puisqu'il avait dit qu'il était très attaché à son pays, qu'il souhaitait payer ses impôts en France. On parlera peut-être des revenus, des impôts qu'il paye. Et là, donc, on a une nouvelle, une sorte de tremblement de terre. Il va nous quitter, il va quitter PSG pour aller sans doute en Espagne.
Sans doute en Espagne, sans doute au Real Madrid, qui lui propose un contrat d'ailleurs beaucoup moins mirobolant que les chiffres qu'il touche actuellement au Paris Saint-Germain, ouais. Puisque d'après les premières informations qui ont filtré, on serait aux alentours d'un salaire à 20 millions d'euros annuels, donc bien loin de ce qu'il touche aujourd'hui.
Qui est plutôt de 100 quelque chose.
Voilà, d'une centaine de millions d'euros. Et donc, nous, on a envie de s'intéresser à Kylian Mbappé qui quitte le PSG. Pour nous, sur RCF France Ardennes, que ce soit vous, que ce soit moi, Gérard-Marie Henry, on n'a pas spécialement d'affect pour le club de la capitale ou etc. Mais c'est surtout, pour nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'il quitte la France.
Oui. Alors, est-ce que c'est important, on pourrait décomposer la question, est-ce que c'est important pour le club qu'il quitte? Est-ce que PSG va vraiment s'en sortir sans cette vedette? Moi, je ne connais pas la réponse, mais je pense que...
Il y a peut-être deux volets. Il y a le volet sportif de ce qui va se passer sur le terrain.
Oui.
Et puis, il y a le volet économique, le produit marketing qu'il y a derrière, la vente de maillots, etc.
Tout à fait. Alors donc, le premier, l'aspect sportif, moi, je pense que l'équipe du PSG va pouvoir tenir la route même sans cette vedette.
Il y en aura d'autres qui vont arriver?
Oui, peut-être. On peut imaginer qu'ils ont prévu le coup, qui savait que le contrat, je ne sais pas si je me trompe pas, mais normalement le contrat devait s'arrêter l'année prochaine.
C'est ça. Hein ? Et là, il va partir.
Il va partir un peu en avance, mais donc ils avaient déjà prévu pour l'année prochaine sans doute quelqu'un qui allait le remplacer. Par contre, ce que vous venez de dire, c'est important sur l'histoire de l'image et des droits qui vont avec cette image. Donc les droits qui sont payés à la Fédération française du football pour les émissions télé, etc., etc. Là, ça risque de décrocher un peu puisque c'était quand même un joueur adulé avec un ensemble de personnes qui le suivent sur les réseaux qui est assez fabuleux. J'ai découvert que c'était plus de 100 millions de personnes qui suivaient Mbappé sur Instagram. Donc c'est absolument incroyable. Et donc tout ça, hop, est-ce que ça va tenir la route après? C'est pas évident. Est-ce que les gens vont continuer à payer pour voir une équipe dans laquelle il n'est plus?
Finalement, c'est pas tant Kylian Mbappé et son départ du PSG qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est l'aspect footballistique en France d'une manière plus globale.
Oui.
Parce que vous le disiez, il y a notamment les droits télé qui vont être renégociés. C'est en plein en ce moment. On a Vincent Labrune. Alors, c'est la Ligue de football professionnel, la LFP, qui
négocie
les droits télé.
Oui.
Avec Vincent Labrune, qui en est le président. Il avait annoncé un objectif il y a déjà une année. Il avait dit, moi, mon objectif, c'est d'atteindre le milliard d'euros sur un contrat en 4 ou 5 ans. Lorsqu'on a des joueurs comme Neymar, Messi, qui sont partis l'été dernier, mais qui sont quand même des têtes d'affiche par rapport au football mondial, Kylian Mbappé, qui annonce son départ pour l'été prochain, avec quoi Vincent Labrune va aller toquer à la porte et dire « Notre ligue aussi en France, elle vaut ce milliard, elle vaut cher », alors que finalement, en termes d'artistes et de sportifs à proposer aux diffuseurs télé, eh bien, on n'aura plus grand-chose, en tout cas pas la même qualité, pas la même stature, la même envergure.
Oui, oui, donc c'est ça le gros risque qu'en fait. Hein. Donc, que va-t-on proposer pour, comme solution de remplacement, est-ce que les gens vont continuer à être aussi intéressés alors que les têtes d'affiche sont parties? C'est pas évident. Quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas des accords à passer pour faire des promesses de vente quelque part aussi aux diffuseurs? Je ne sais pas si c'est possible dans le monde du sport, Gérard-Marie Henry,
oui.
Mais par exemple que le Paris Saint-Germain dise à la Ligue, ok, Kylian Mbappé s'en va, nous on vous garantit que demain on va ramener peut-être n'importe quoi, Jude Bellingham du Real Madrid ou une autre star connue du football. Et donc sous cette promesse de recrutement, quelque part, que la Ligue elle dise aux diffuseurs, on a un accord avec le PSG qui nous a promis qu'on aurait des renforts.
Oui, mais ça reste secret pour l'instant. Je pense que c'est ce qui se trame. Je pense que toute l'équipe, enfin que ce soit le PSG, la Ligue, etc., ont intérêt à ce que le truc continue à tenir, puisque c'est leur poule aux œufs d'or, en fait. Mais donc, ils doivent discuter pour trouver des remplacements. Mais est-ce que ça va être suffisant? Même si je te promets que je vais trouver une tête d'affiche, est-ce que cette tête d'affiche va continuer à attirer autant de personnes derrière leur petit écran?
Et puis là, c'est vrai que l'on parle aussi du cas du Paris Saint-Germain, mais peut-être qu'en France, on a un manque de concurrence par rapport à notamment le Qatar, donc qui a investi Paris. Mais s'il y a d'autres pays, notamment émergents et qui investissent dans le football, comme l'Arabie Saoudite, qui pourraient venir reprendre Marseille, par exemple, pour créer cette concurrence, peut-être qu'il y aurait cette possibilité d'avoir un marché encore plus fort, avec une ligue plus attractive, avec deux équipes qui pourraient rivaliser aussi sur le terrain.
Rivaliser sur le terrain. Mais alors là, comme je suis un peu novice dans le domaine, je ne sais pas quand même dans les pays étrangers, si on parle de l'Espagne, est-ce qu'on a quand même cette force de plusieurs équipes qui peuvent à la fois, chacune d'entre elles, tirer l'auditoire, tirer les spectateurs. Est-ce qu'on a un marché qui est plus dynamique que le marché français?
Alors, en termes d'effectifs, on a surtout deux grosses équipes en Espagne. Souvent,
le
Real Madrid, qui est certainement le meilleur club du monde et en plus le mieux géré du monde.
Ouais.
Alors, regardé par son président, hein, d'ailleurs, Florentino Pérez, qui fait toujours les affaires. Là, Kylian Mbappé, encore gratuit. David Alaba, du Bayern Munich, qui va arriver cet été, c'est gratuit aussi. Il arrive à avoir les meilleurs joueurs du monde en attendant la fin de leur contrat sans les acheter. Donc, c'est assez incroyable. Et puis, on a le Barça, qui est dans une situation économique très compliquée. Gérard-Marie Henry, si vous regardez les chiffres du Barça en termes d'économie, vous finissez avec la même coiffe que moi, c'est dire, a priori, on s'arrache les cheveux du côté de Laporta et des Espagnols, mais qui reste quand même un club qui peut être chaque année candidat au titre avec 2-3 équipes surprises qui sont toujours là pour rivaliser quand même malgré tout sur le terrain.
Donc on a plus de concurrence
qu'en France.
D'accord.
On se retrouve pas avec 14 points d'écart à la 25e journée comme on peut l'avoir en France.
D'accord.
On est souvent à se tenir à 2-3 points.
Et donc ça maintient 5, l'intérêt 6, du public et ça maintient le choix qu'on peut faire de dire, tiens, je vais voir ce qu'ils vont faire ce soir.
Au moins
etc.
jusqu'à la 35e, 36e
journée.
Donc un peu plus loin dans le championnat et pour les diffuseurs, beaucoup plus d'avantages.
Beaucoup plus d'avantages.
Alors c'est vrai qu'on parle de cette possibilité-là. Et puis Kylian Mbappé qui quitte le Paris Saint-Germain, qui quitte la France, c'est aussi par rapport au salaire mirobolant qu'on évoquait, Gérard-Marie Henry.
Oui.
Parce qu'on a un gros salaire en France, souvent les Français se plaignent d'être taxés.
Oui.
Mais Kylian Mbappé aussi il est taxé.
Oui,
et ça rapporte des sous à l'État.
43%.
C'est énorme.
C'est énorme.
Parce que sur un salaire à 100 millions d'euros, ça veut dire que chaque année, Kylian Mbappé donnait à l'État 43 millions d'euros.
Plus de 40 millions. Oui, mais enfin bon.
Il y a un manque à gagner quand même pour l'État français.
Oui, non, mais enfin ça, c'est marginal. Hein. On va dire, c'est une goutte d'eau, c'est même pas un petit bout d'Airbus en moins qu'on aurait vendu. Donc moi, c'est pas ça qui me fait pleurer. Ce qui fait pleurer, c'est la dégradation de l'image du football français qu'on pourrait avoir et qui serait moins attractif pour les spectateurs à la fois français et étrangers. Puisque je pense que les spectacles que le PSG, etc., fournit, ils sont aussi intéressés, vont intéresser des Belges, des Hollandais, des Allemands, etc.
Et là, les pays asiatiques aussi, beaucoup.
Tout à fait.
Une part de marché
et donc là, on risque d'avoir une dégradation qui serait sensible et après difficile à remonter aussi. Parce que quand vous parlez de l'Arabie Saoudite qui pourrait racheter Marseille, c'est encore quand même des gros points d'interrogation.
Et puis lorsqu'un projet est négocié dans le football, on négocie des contrats. Alors c'est pas forcément des contrats longs en termes d'économie, mais sur 4-5
ans,
ça veut dire qu'on est quand même après bloqué pendant ces 4-5 années-là. Ça veut dire que si d'un coup, dans 2 ans, Paris Saint-Germain retrouve une autre superstar, si l'OM est racheté par l'Arabie Saoudite ou un autre gros investisseur ou un pays qui a envie d'investir dans le football, le contrat est négocié, c'est gagné par la partie, par les diffuseurs qui a acheté peut-être moins cher les droits à ce moment-là.
Qui a acheté moins cher. Oui, là, ça serait bien pour les diffuseurs. Mais pour l'instant, c'est plutôt plutôt les diffuseurs qui pleurent.
Bon, ben on suivra ça de près, Gérard-Marie Henry.
On en reparle dans quelques mois.
Merci de nous avoir aidé à comprendre un petit peu ce qu'il se passe autour du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Et puis on se retrouve très bientôt.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Vous avez vu qu'il faisait beau, c'était ensoleillé. Eh bien, on en reverra tout à l'heure la météo, mais on peut quand même dire que demain, il fera encore beau, avec des températures fraîches, bien entendu, toujours le matin, mais qui pourraient monter jusqu'à 13 degrés l'après-midi dans notre région à Reims, dans les environs de Reims, et dans le département des Ardennes. Alors, une bonne nouvelle pour les Ardennes, et peut-être un honneur pour le président du club de voile de Béron. Il s'appelle Jean-Pierre Évrard, et il vient d'être retenu pour arbitrer les épreuves de voile des Jeux Olympiques cet été à Marseille. C'est une grande fierté pour le président du Béron Nautique Club dans les Ardennes. Il est président depuis 2006. On parle des mers, votre mère nous parle, c'est une émission que vous retrouvez tous les jours à midi, mais aussi dans le magazine régional aux alentours de 18h20. C'est donc le cas ce soir avec Philippe Lantenois, il est maire de Novion-Porcien dans le département des Ardennes. Philippe Lantenois, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup d'Ardennais, bien sûr tous les Ardennais, peut-être un peu moins les Marnais connaissent Novion-Porcien. Est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous présenter un peu votre commune, combien d'habitants, est-ce qu'il y a des agriculteurs, des retraités, est-ce qu'il y a des jeunes qui s'installent? Votre commune d'abord, monsieur le maire.
Écoutez, notre commune, elle était initialement, quand j'ai démarré mon mandat, de 498 habitants, et je dirais, fort heureusement, nous sommes passés à 510, 512 habitants, donc il y a une évolution, je dirais, positive de notre population. On se situe sur la route Rethel, la D985, Rethel à mi-chemin entre Rethel et Signy-l'Abbaye, et cette route-là remonte vers la Belgique, donc on est dans une route, je dirais, circulante. Une population, je dirais, équilibrée entre des gens de diverses populations. Une base agricole, ben, je dirais, qui va quand même en régressant parce que les fermes disparaissent, mais elles se regroupent dans des fermes plus importantes. Mais on est un village où il fait bon vivre. On est, si vous voulez, crête préardennaise de nature, puisque dans la répartition administrative, nous sommes crête préardennaise. Mais quand même, nous sommes proches du pays rethelois, parce que nous sommes à 10 minutes de Rethel avec les commodités de notre ville, hein, c'est-à-dire tout ce que peut comporter la ville de Rethel, piscine, infrastructures sportives, commerce, etc.
Et ça fait, monsieur le maire, je vous coupe, ça fait combien de kilomètres de Rethel à peu près?
On est à 10 kilomètres de Rethel.
Oh, mais c'est tout proche.
Voilà. J'ai habitude de dire qu'on parle le crétois parce qu'on est crête préardennaise, mais on est bilingue. On parle le rethelois parce que notre bassin de vie... Et Rethel, du point de vue industriel, a quand même un développement important qui fait que, je dirais, par suite logique, notre village se développe.
Monsieur le maire, vous êtes maire depuis combien de temps? Et est-ce que vous étiez au conseil municipal avant? Est-ce que vous avez fait vos premières classes en général comme adjoint ou au conseil municipal?
Oui, tout à fait. Dans le mandat précédent, j'étais premier adjoint sous l'égide de Mme Géin, qui était Mme le maire du mandat précédent. Et j'avais... Je m'étais toujours promis à moi-même d'embrasser une carrière, je dirais, de maire, après mon activité professionnelle qui était issue du transport routier. Et donc, suite à ce mandat de Madame le maire qui ne se représentait pas, j'ai été élu maire dans ce mandat actuel.
Et d'ailleurs, vous faites bien de le dire, puisqu'on a beaucoup de maires dans cette émission, un par jour, vous le savez, à midi et à 18h20, tous les jours sur RCF, Reims-Ardennes. Il est vrai que certains maires qui ont une activité professionnelle se plaignent, entre guillemets, du manque de temps. Parce que votre commune, elle a dépassé les 500 habitants, et ça commence à faire. Vous avez de la paperasserie, vous êtes interpellé. Tous les jours, vous pouvez avoir des réunions en cours de journée.
Oui, tout à fait, parce que, si vous voulez, après, une mairie est forcément intégrée dans d'autres systèmes. Elle est intégrée dans une communauté de communes. Dans votre mairie, vous avez des activités annexes qui sont le syndicat de l'eau, le syndicat des écoles. Donc, en fonction, je dirais, des responsabilités que vous avez à entreprendre, vous allez forcément avoir une charge professionnelle qui va augmenter. Donc, moi, j'émets quand même un certain doute sur la compatibilité entre une activité de maire et une activité professionnelle.
Alors justement, Cette commune, cette formidable commune de Novion-Porcien, très agréable, accueillante, est-ce qu'elle a quand même, et elle en a, un certain nombre d'atouts. J'ai entendu parler quand même du fameux musée, mais il n'y a pas que le musée, mais le musée est important.
Le musée est important, surtout que c'est un musée, si vous voulez, qui évolue au cours des années, sous l'égide du conseil départemental, qui peut, au fur et à mesure, si vous voulez, du temps qui lui est donné, va atteindre une dimension de plus en plus grande, a fortiori avec des années qui vont être des années de commémoration, et c'est vrai que c'est un élément important de notre commune. Mais il faut, je dirais, nous, commune, construire autour de ce musée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer le musée, qui est une partie importante de notre commune, mais il faut construire avec les festivités, il faut se donner des infrastructures qui vont aller avec. J'en veux pour preuve, on a une salle socio-éducative qu'on va agrandir, on va construire une halle couverte moderne avec très certainement sur l'année 2025 une couverture en panneaux photovoltaïques pour être dans notre vocation écologique. Donc vous savez, il y a des tas de projets comme ça qui se mettent bout à bout, mais qui restent en fonction de nos possibilités financières.
Il faut dire certainement que le musée attire un certain nombre de visiteurs, de collégiens, de lycéens, enfin de jeunes qui s'intéressent à l'histoire, mais aussi d'adultes, bien entendu, petits et grands, et que ça fait sans doute un peu d'animation tout de même.
Oui, tout à fait, parce que j'en veux pour exemple qu'avec la communauté de communes des Crêtes-Pardennaises, si vous voulez, on a installé une halte à camping-car qui permet l'entretien et la vidange de nos amis camping-caristes. Donc ça, plus, je dirais, l'accueil des collégiens, etc., il y a un pôle touristique qui est loin d'être négligeable.
Alors c'est vrai, on aura l'occasion, monsieur le maire, on ne va pas le faire ici, on l'avait déjà fait dans le cadre d'autres émissions, de présenter le musée lui-même, ce musée Guerre et Paix de Novion-Porcien, qui est un très très beau musée, hein. Il est récent, il est relativement récent, et on peut dire que c'est une véritable source de connaissances sur le plan de l'histoire. Il faut dire que cette région de Novion-Porcien, de Rethel, de Signy-l'Abbaye, elle a été aussi une terre de combat, une terre où dans l'histoire on a retenu un certain nombre d'événements.
Bah oui, on en veut pour preuve, si vous voulez, qu'au travers des trois conflits, on a été un lieu de passage, ce qui pourrait être, qui peut paraître malheureux, mais bon, l'histoire en est comme telle. Mais c'est vrai que ce musée-là, il a une version, si vous voulez, d'où son appellation musée guerre et paix. Je dirais qu'on tente à retracer l'histoire pour peut-être que les événements de l'histoire ne se reproduisent pas. Mais il y a réellement un modernisme de ce musée-là qui évolue. Là, il a été fermé trois semaines durant le mois de janvier pour reconstruire encore, je dirais, d'autres scénographies. Ben, franchement, c'est un produit, je vais dire, évolutif.
Alors, monsieur le maire, il nous reste 2 minutes. On peut essayer de voir un peu comment ça fonctionne dans votre village, un village accueillant, on imagine. Vous avez des projets, vous avez parlé de la halle, vous avez parlé de tout ça. Les fleurs, je ne sais pas si vous êtes dans le fleurissement. On sait que beaucoup de villages des Crêtes pré-ardennaises se sont embellis depuis plusieurs années. Rien à voir avec ce qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans, hein.
Ah, il est vrai que moi, je suis issu du monde agricole et malheureusement, dans des temps reculés, on avait le tas de fumier qui était au bord de la porte. Non, les villages maintenant, d'une façon générale, les villages des Crêtes sont de beaux villages. Très agréable, c'est une contrée vraiment très agréable à visiter.
Et est-ce que, je vous interromps, monsieur le maire, mais parce qu'il nous reste peu de temps, mais est-ce que vous avez eu des jeunes ménages ou des jeunes qui s'implantent à Novion-Porcien, qui habitent maintenant à Novion-Porcien? Parce que ça, c'est pas évident.
Alors, c'est notre challenge. Là, on va mettre 4 parcelles à la vente, 4 parcelles de construction. Il y a 7, 8 à 10 maisons actuellement anciennes qui sont rénovées parce que dans l'équilibre de votre village, il vous faut du locatif. C'est-à-dire que les gens de location sont des primo-acquérants lors de la vente. Et le tout maintient un effectif scolaire. Actuellement, on a 98 élèves qui sont répartis sur 4 classes avec une cantine scolaire où nous pratiquons nos propres repas, c'est-à-dire que nous ne dépendons pas d'un groupe de restauration. Et tout ça, je dirais, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux.
En tout cas, promesse, Philippe Lantenois, on a tellement de choses à dire sur Novion-Porcien qu'on reviendra vers vous avant la fin de l'année, avant le 30 juin, et vous nous parlerez de tout ce dont on n'a pas pu parler avec vous aujourd'hui. On vous souhaite une très très bonne journée. Vive Novion-Porcien et les Ardennes, et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci Jean-Pierre, et l'invitation, elle tient, n'hésitez pas.
Le 18-19 sur RCF.
Dans quelques instants, nous allons retrouver le journal régional, quelques titres pour développer ces informations sur Reims et le département des Ardennes. Je vous indique aussi que la semaine prochaine, nous avons programmé, nous essayerons d'avoir dans les prochains jours, mais ce n'est pas encore confirmé, la venue de Catherine Vautrin, qui est ministre de la Solidarité, ministre du Travail, ministre aussi de la Cohésion sociale, et là bien sûr des ministres délégués. Espérons qu'on puisse la retrouver. En tout cas, nous vous tiendrons au courant. En attendant, il est 18h30, c'est l'heure de retrouver quelques infos locales et régionales. Au sommaire de notre édition, on le réentendra tout à l'heure, on avait entendu un petit extrait hier. Jean-Marc Rose, le président du conseil départemental, revient très largement ce soir sur le RSA New Look, RSA Nouvelle Formule, puisque vous le savez, 15 heures de travail ou en tout cas d'activité sont proposées à tous ceux qui peuvent avoir le RSA. Et puis nous reviendrons également sur la Fondation du patrimoine. Elle se mobilise en cette période d'année où les projets et les résultats des concours avancent. Pierre Possémé et Bernard Deloriston seront avec nous plus complètement la semaine prochaine. Extrait ce soir dans notre édition. Orgeval, le quartier d'Orgeval, je le disais tout à l'heure, on voit ses habitants quelque peu inquiets. Orgeval est privé de poste et du distributeur automatique depuis la nuit d'émeutes et de violences urbaines, c'était fin juin 2023. Les habitants d'Orgeval doivent faire sans bureau de poste ni distributeur de billets. Pour eux, selon Olivier Durand dans le journal L'Union de ce matin, c'est la double peine puisque à Orgeval, les habitants sont privés des deux choses, distributeur de billets et aussi service de la poste. Et bien entendu, une pétition circule pour une réouverture le plus vite possible. La Poste promet une réouverture d'ici 2 mois. Comme on dit, on vous tiendra au courant. Le RSA, bien entendu, était accordé à peu près à 13 000 personnes dans le département de la Marne. Bien sûr, c'est difficile de tout connaître de ces 13 000 personnes, mais pour Jean-Marc Rose, il y a un certain nombre d'entre elles qui peuvent être mis plus facilement que d'autres, sans doute, dans la réinsertion pour retrouver du travail, ou en tout cas, retrouver des activités. Il va nous le dire plus complètement dans quelques minutes dans la partie magazine de notre édition, mais je vous propose de retrouver un extrait de ce que nous disait Jean-Marc Rose, qui était notre invité ce matin.
L'État va nous aider par une enveloppe qui nous sera destinée à embaucher des personnes qui vont s'occuper particulièrement donc de tous ces bénéficiaires en réinsertion. On a choisi, on peut pas tout faire hein, sur toute la Marne, mais on a choisi un bassin d'emploi difficile qui est le bassin d'emploi de Jeanne d'Arc, qui comprend les quartiers Europe Épinette, mais également une quarantaine de communes autour et qui représente à peu près 1700 emplois, enfin 1700 bénéficiaires pour l'instant qui pourraient se réintégrer à l'emploi. Et donc ce travail-là, il est fait bien sûr en relation avec France Travail, hein, anciennement Pôle emploi, et c'est ensemble avec France Travail maintenant et le département qu'on va être proche de ces gens, de ces personnes qui recherchent, qui sont bénéficiaires de RSA mais qui recherchent un emploi pour les aider vraiment dans tous les domaines que je vous ai décrits tout à l'heure. L'idée, c'est d'être très proche de ces personnes qu'on ne connaît pas forcément, qui bénéficient effectivement du RSA, mais lorsqu'on discute avec eux, lorsqu'on les aide, on s'aperçoit des orientations qu'on peut leur donner. C'est cette proximité qui fait que ça peut marcher. D'ailleurs, j'ai un exemple très simple que je peux vous livrer. Hein. C'est celui du président des départements de France qui s'appelle François Sauvadet. C'est donc le président de la Côte d'Or. Lui, il l'a essayé sur un bassin d'emploi d'à peu près 2000 bénéficiaires. J'ai échangé avec lui il y a 2 jours, il m'a dit que ça avait très bien marché, qu'il avait réussi à réinsérer pas mal de personnes, donc je pense que cette expérimentation est assez positive.
C'était Jean-Marc Rose, président du conseil départemental de la Marne. Et puis la Fondation du patrimoine, vous savez que bon nombre d'auditrices et d'auditeurs de RCF s'intéressent bien sûr au patrimoine de notre région. Et Dieu sait si à Reims, dans la région de Reims et dans le département des Ardennes, il y a de nombreux monuments publics, privés et qui sont entretenus plus ou moins bien, et la Fondation du patrimoine permet à des personnes physiques qui sont propriétaires de bâtiments ou même à des institutions d'avoir une aide substantielle. Eh bien, la semaine prochaine, nous recevrons plus complètement Pierre Possémé et Bernard Delouriston de la Fondation du Patrimoine. Je vous propose un extrait de cette émission que vous pourrez suivre la semaine prochaine. Pierre Possémé, Bernard Delouriston.
Les dons ont augmenté sur notre région de plus de 40% et dans la Marne et Ardennes, c'est plutôt plus de 50%. Donc on peut dire que c'est une bonne année pour les dons. Ça veut dire merci pour la générosité de nos concitoyens Marne-Ardennes, puisque des dons, c'est des projets. Des projets, c'est de l'emploi et c'est aussi des monuments sauvés. Quand on sait la difficulté qu'on a à sauver nos monuments, on sait que nos maires ont beaucoup de courage quand ils ont des monuments. C'est pas facile, vu les budgets souvent qu'ils ont, et puis ils ont souvent d'autres priorités. Donc on apporte une aide, puisque plus de 10% de leur budget de travaux est compensé par des dons de nos concitoyens, que ce soit des habitants comme des entreprises. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'était Pierre Possémé et Bernard Delouriston de la Fondation du Patrimoine. Et puis, à signaler que l'on se prépare à un certain nombre de rendez-vous. Ce sera en particulier, on le dit depuis le début de la semaine, avec le festival Jubilaté, qui a lieu du 15 au 17 mars prochain. Nous y sommes revenus abondamment dans nos éditions précédentes et dans le cadre du magazine du week-end de samedi, entre 11h et midi et entre 17h et 18h, vous pourrez retrouver Sylvie Lahotte qui nous en parlera. La météo, vous le savez, on le disait tout à l'heure, le soleil doit être au rendez-vous. Le soleil, parce que depuis quelques jours, il n'avait pas fait très beau. Il a fait beau aujourd'hui, mais demain, malgré des pressions en hausse, malgré une petite évolution qui pourrait amener quelques gouttes, eh bien, on annonce quand même pour demain un soleil qui devrait être relativement généreux, des températures fraîches le matin, peut-être même des gelées. On annonce 1 degré à Reims, mais 0 dans certains coins, comme on dit, des Ardennes. Les températures pourraient monter demain, vendredi après-midi, 14 degrés dans la région de Reims et dans le département des Ardennes. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous le savez, vous l'avez constaté vous-même, en ce mois de mars, les jours rallongent et le magazine du week-end et le magazine plutôt régional, le soir, qui était plus ou moins dans la brume et dans la nuit jusqu'ici, eh bien, il fait clair jusqu'à 19h, parfois même 19h15. C'est quand même une belle chose. Sachez qu'il y aura le changement d'heure, mais le changement d'heure, ça sera le dimanche de Pâques. Il va falloir faire attention cette année. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite du magazine.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Le président du conseil départemental, Jean-Marc Rose, était avec nous ce matin à 7h et 8h. Je vous propose de le retrouver intégralement dans ce magazine. Jean-Marc Rose, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai qu'on prend des nouvelles du conseil départemental de la Marne, dont vous êtes le président depuis seulement quelques semaines. Vous aviez alerté sur l'état des finances dans la mesure où l'État parfois vous demande un certain nombre de missions et puis ne se mobilise pas au niveau des euros pour faire la compensation.
Ah mais c'est très bien décrit Jean-Pierre. Effectivement nous avons des dépenses qui sont contraintes par l'État, notamment dans, bien sûr, le domaine social. Nous n'avons aucune autonomie fiscale, ce qui fait que, effectivement, nos budgets sont toujours de plus en plus contraints.
Tout récemment, une loi voulait s'appliquer au département. Alors, je crois qu'il faut que vous nous l'expliquiez, parce qu'il y avait des départements qui étaient déjà entrés dans le système. Il y en a d'autres qui viennent de rentrer, dont les Ardennes et la Marne, à propos du RSA. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce que vous allez faire, Jean-Marc Rose ?
D'abord, oui, effectivement, il y a eu, je crois, 18 départements qui étaient en expérimentation. Vous savez très bien que je connais particulièrement Madame la Ministre, Catherine Vautrin, qui a demandé, avec d'autres, hein, si on voulait faire partie de cette expérimentation du changement pour le RSA. Moi, je trouve qu'une expérimentation, c'est mieux avant d'avoir une application, parce qu'au moins, on sait de quoi on parle. Et donc, j'ai accepté, pour le département de la Marne, qu'on fasse cette expérimentation. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit tout simplement de faire nos bénéficiaires du RSA un certain nombre d'heures par mois d'activité. Il faut savoir que le département n'a qu'une idée en tête, un seul objectif, c'est de réinsérer
les demandeurs, les bénéficiaires du RSA à l'emploi. Et donc le fait de les préparer à une activité, je vous la décrirai tout à l'heure si vous le souhaitez, pour moi est tout à fait bénéfique pour faire en sorte que tous ces bénéficiaires puissent recouvrer un emploi.
On n'a pas une idée du nombre de bénéficiaires du RSA dans le département de la Marne, en gros, hein.
Ah si, non mais je le connais, vous savez, je suis un homme de chiffres, Jean-Pierre. Il y a 2 ans, on était à 15 250 et on a appliqué ce qu'on appelle le service public d'insertion et de l'emploi, avec d'autres systèmes comme par exemple Active 51, qui participaient justement à faire en sorte qu'on puisse réinsérer ces jeunes. On est passé de 15 250 à aujourd'hui 13 700. Ça veut dire que par ce système, on a pu diminuer le nombre de bénéficiaires de 1500 emplois.
Ça veut dire qu'au fond, et c'est là le moteur un petit peu de traction, vous dites, en faisant ces 15 heures, parce qu'il n'y a que 15 heures par semaine de travail à faire, on met quand même ces personnes qui sont en situation d'éloignement de l'emploi, le fait de réinsérer quand même le système. Et c'est ça votre démarche. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer davantage? Dans quel secteur, comment ça fonctionne? Parce que ça, c'est pas évident, on ne sait pas toujours.
Alors, bon, vous savez que parmi les 13 500 qui sont actuellement bénéficiaires du RSA dans la Marne, il y en a forcément un certain nombre qui sont soit malades, soit addicts, enfin, sont des gens qui sont malheureusement difficiles à réinsérer. Mais pour la plupart, on va dire plus des trois quarts, sont des gens qui peuvent être réinsérés. Alors, il s'agit en fait de quoi? De leur donner de l'activité. C'est pas forcément un travail, hein. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est leur faire faire, par exemple, de la formation, des ateliers de rédaction de curriculum vitae, certains ne savent pas les faire, faire des rencontres avec des employeurs, de les immerger dans l'entreprise. Mais également, il s'agit aussi, par exemple, pour certains, de leur apprendre la langue française, parce qu'ils sont bénéficiaires du RSA, ils ne parlent pas la langue française. Et par l'intermédiaire du service public d'insertion et de l'emploi, on avait levé des freins, comme par exemple la mobilité, ou la santé, ou le logement, ou la garde d'enfants. Ça veut dire que pour la mobilité, par exemple, on a créé des navettes, où on a payé des permis de conduire, on a aidé à payer des permis de conduire. Pour les gardes d'enfants, par exemple, on a aidé à payer la garde d'enfants. Voilà des aides que le département a apportées, qui a contribué à cette baisse des bénéficiaires.
Quand vous dites 15 heures d'activité, il y a donc une grande variété d'activités possibles.
Oui, ça peut être une formation dans un domaine, par exemple, particulier. Le bénéficiaire était peut-être employé de bureau, et quand il avait son emploi, il voudrait être ajusteur. Eh bien, on va l'aider à passer ce cap. On peut aussi avoir des relations avec des entreprises qui forment elles-mêmes à des métiers. Ça peut être dans la restauration, ça peut être dans d'autres domaines. Par exemple, dans le cadre d'Active 51, on a permis à certains bénéficiaires, bien sûr, il y a eu les vendanges, mais il y a eu aussi la participation à de la cueillette avec des maraîchers. Ça peut se faire aussi en gardant le bénéfice au RSA et en l'additionnant avec le salaire.
Donc tout ça se met en place en ce moment, progressivement. Et vous, avec le Conseil départemental de la Marne, vous servez aussi un peu d'intermédiaire, parce qu'il y a ceux qui vont devoir entrer dans le système, et puis peut-être aussi des employeurs, des associations, des gens qui sont en responsabilité, qui peuvent de l'autre côté vous aider. Comment ça va se passer?
D'abord, je voudrais saluer bien sûr le travail de nos services, mais également de mon vice-président en charge de la réinsertion, Mario Rossi, qui ont travaillé depuis 2 ans à tout cela. Ce travail que nous allons faire, qui va démarrer le 1er janvier 2025.
Ça ne démarre pas tout de suite.
Non, on a
le temps de s'y préparer quand même, un peu.
Oui, tout à fait, parce que en fait, ça veut dire que l'État va nous aider par une enveloppe qui nous sera destinée à embaucher des personnes qui vont s'occuper particulièrement donc de tous ces bénéficiaires en réinsertion. On a choisi, on peut pas tout faire hein, sur toute la Marne, mais on a choisi un bassin d'emploi difficile qui est le bassin d'emploi de Jeanne d'Arc, qui comprend les quartiers Europe Épinette, mais également une quarantaine de communes autour, et qui représente à peu près 1700 emplois, enfin 1700 bénéficiaires pour l'instant, qui pourraient se réintégrer à l'emploi. Et donc ce travail-là, il est fait bien sûr en relation avec France Travail, hein, anciennement Pôle emploi, et c'est ensemble avec France Travail maintenant et le département qu'on va être proche de ces gens, de ces personnes qui recherchent sont bénéficiaires de RSA, mais qui recherchent un emploi, pour les aider vraiment dans tous les domaines que je vous ai décrits tout à l'heure.
On a l'impression aussi que souvent, on ne sait pas qui joindre au niveau des gens qui ont des difficultés, on a peut-être du mal à les repérer, mais par le biais du RSA, vous allez jouer là un rôle moteur, finalement, peut-être dans la réinsertion professionnelle, parce que là, vous allez toucher vraiment le public, là.
Ah mais complètement, c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est d'être très proche de ces personnes qu'on connaît pas forcément, qui bénéficient effectivement du RSA, mais lorsqu'on discute avec eux, lorsqu'on les aide, on s'aperçoit des orientations qu'on peut leur donner. C'est cette proximité qui fait que ça peut marcher. D'ailleurs, j'ai un exemple très simple que je peux vous livrer, hein. C'est celui du président des départements de France qui s'appelle François Sauvadet. C'est donc le président de la Côte d'Or. Lui, il l'a essayé sur un bassin d'emploi d'à peu près 2000 bénéficiaires. J'ai échangé avec lui il y a 2 jours. Il m'a dit que ça avait très bien marché, qu'il avait réussi à réinsérer pas mal de personnes. Donc je pense que cette expérimentation est assez positive.
On peut dire, Jean-Marc Rose, que le débat que nous ouvrons sur l'antenne de RCF ne fait que s'ouvrir. Vous allez l'amorcer et puis la mise en œuvre, c'est en janvier. D'ici là, bien évidemment, Jean-Marc Rose, on va vous retrouver sur RCF. On va approfondir tout ça. Et puis on vous retrouvera bien sûr sur bien d'autres sujets parce que cela démontre l'importance et le rôle du département. Vous venez de le montrer quand on s'interroge parfois sur le département. Là, vous faites la preuve par A plus B que vous êtes utile vraiment en proximité avec les personnes. Ça aussi, c'est une démonstration. Hein.
Bah, je vous remercie de ce compliment, mais c'est tout à fait notre rôle. Notre vocation première, vous le savez, c'est le social, au travers du handicap, au travers dont j'ai fait le moteur pour mon mandat. Et puis, bien sûr, les personnes âgées, l'enfance, hein, puisqu'on a des états généraux actuellement de l'enfance. Et puis, en priorité aussi, tous ceux qui sont bénéficiaires de RSA. Ça représente quand même plus de 13 000 personnes dans le département. C'est pas rien. Et donc, c'est cette proximité que le département peut offrir pour réussir l'engagement que nous avons vis-à-vis de toutes ces personnes.
Le 18-19 sur RCF.
Dans quelques jours, il y aura un concert important avec Burkina Entraide. Josette Defranou est avec nous pour nous en parler. Josette Defranou, bonjour.
Bonjour, Pierre Benoît.
Vous êtes responsable, en tout cas, d'une association, l'un des responsables de l'association Burkina Entraide. On va évoquer la 30e soirée chorale, c'est donc un anniversaire qui va se dérouler le 22 mars, c'est un vendredi à 20h30 à l'église Saint-Vincent-de-Paul à Reims, dans le quartier de l'Europe. Alors de quoi s'agit-il? C'est une soirée un peu traditionnelle, une fois par an?
Oui,
vous faites une soirée chorale, de quoi s'agit-il?
Oui, une fois par an, en général au mois de mars, une soirée chorale, où nous réunissons plusieurs chorales qui chantent donc au profit de l'association. Cette année, nous aurons 4 chorales, Cœur de l'Étoile de Bourgogne, Cœur Horizon, EJM Family, et la Vélardane. 4 chorales connues, de qualité, qui vont chanter leur chant. Bien sûr, chacune chantera son répertoire, mais il y aura aussi, au début et à la fin, des chants communs à l'ensemble des choristes. Donc, ces chants communs réuniront 150 choristes.
Donc, il va y avoir du monde. Alors, je vous pose la question tout de suite. Comment fait-on si on veut venir à l'église Saint-Vincent-de-Paul le 22 mars à 20h30? On peut se présenter au dernier moment?
On peut se présenter au dernier moment, bien sûr. On peut aussi réserver.
Alors, le prix des places, c'est 10 euros pour les adultes et puis 5 euros pour les jeunes.
Jusqu'à 18 ans.
Jusqu'à 18 ans. On va sur le site si on veut réserver?
Oui, on peut réserver sur le site. On peut réserver par téléphone.
Le 06 75 82 77 86,
oui.
C'est bien cela.
Sur le site.
Et sur le site, alors tout attaché, burkinaentraide@orange.fr. On a un mail et le site, ben, si on tape burkinaentraide.org, on trouve.
On trouve, il n'y a pas de problème, on trouve. Oui.
Alors justement, on a envie de vous interroger sur cette association. Quels en sont les buts? Ça sert à quoi, au fait, cette association?
Cette association est tournée sur l'éducation. Depuis 2001, nous sommes dans la construction de classes d'écoles primaires ou de collèges. J'ai fait le compte des classes que nous avons construites depuis. Nous avons construit sur plusieurs écoles 23 classes.
C'est quand même impressionnant.
Oui, c'est impressionnant. Et nous avons rénové 6 classes. Rénové, c'est des classes qui vraiment tombaient en ruine, qui étaient très, très vétustes. Et nous les avons rénovées. Donc, vous voyez, ça fait quand même un certain nombre de classes... un certain nombre d'élèves, parce que les classes sont très, très nombreuses là-bas, d'élèves qui, grâce à l'association, peuvent être scolarisés.
En dehors de la construction ou de la réhabilitation des locaux, est-ce que vous vous investissez dans d'autres formules, dans d'autres aides que vous apportez?
Oui, en particulier, nous participons au paiement des frais de scolarité des enfants qui sont orphelins ou qui sont vraiment en situation difficile. Nous soutenons aussi un groupe de femmes veuves qui s'est constitué il y a quelques années, donc pour leur permettre, à travers des activités génératrices de revenus, pour leur permettre de payer la scolarité de leurs enfants.
Alors il faut dire que cette association fête ses 30 ans. Et à l'origine, vous me l'avez dit juste avant de commencer cette émission, c'est un jeune Burkinabé qui un jour vient faire ses études à Reims. Ça, c'est une belle histoire.
Oui, oui, il est venu faire ses études à Reims. C'est Fernand, il est venu faire des études à Reims. Il est resté quelques années, il a noué beaucoup d'amitiés. Et un jour, il est reparti dans son pays. Et les amis, pour la plupart jeunes, hein, qu'il avait connus ici, sont allés le voir. Il leur a fait découvrir son pays et il leur a fait aimer son pays. Et au retour, ils ont décidé de créer cette association.
Et cette association existe depuis 30 ans.
Depuis plus de 30 ans.
Plus de 30 ans. On se souvient de l'avoir reçu ici en particulier. Il est décédé depuis, bien sûr, le père Michel Pilot de Cormontreuil qui nous parlait toujours de, finalement, de ses déplacements au Burkina. Vous-même, vous êtes en lien constamment
oui, oui.
Avec
on est,
le Burkina,
on est en lien,
même aujourd'hui.
Oui, oui, on est à lien tous les jours avec le Burkina. On a toujours, bien sûr, des correspondants là-bas et on est à lien régulier. On suit leurs projets, on est régulier avec le Burkina.
On avait entendu dire, en tout cas dans les médias, sur la situation politique internationale, que les relations entre la France et le Burkina n'étaient pas au beau fixe. Est-ce que cela pouvait menacer votre association ou est-ce que vous avez des liens tellement forts localement que finalement ça continue ?
Oui, oui, c'est vraiment le cas. Ce sont les relations entre les dirigeants des deux pays qui sont dégradées. Mais les relations entre la population burkinabée et la population française ne sont pas dégradées. Toutes les associations humanitaires qui œuvrent au Burkina, et nous en connaissons plusieurs qui y vont régulièrement, conservent de très bonnes relations avec leurs correspondants et la population sur place. Et ce que je peux dire, c'est que notre action auprès des enfants reste encore et toujours très, très utile.
Donc ça veut dire que ceux qui vont se rendre à cette 30e soirée chorale vendredi 22 mars à 20h30 à l'église Saint-Vincent de Paul, eh bien, ils mènent pour cette association une action extraordinaire qui vient en aide et en particulier pour les enfants avec des locaux, écoles primaires, collèges, paiement de scolarité. Ça veut dire que tout ça, ça continue, tout ça, ça se poursuit.
Oui, et nous sommes heureux que tout ça puisse continuer. Nous souhaitons que toutes ces actions puissent continuer.
Alors, Josette Defranoux, c'est bientôt le moment de nous séparer.
Oui.
On rappelle qu'on peut aller, bien sûr, sur votre site. On peut taper sur Google Burkina Entraide et on trouvera. Et puis, si on veut, eh bien, on va directement le soir même à 20h15, un peu avant quand même.
Oui, oui, oui. Hein, à 20h pour pouvoir démarrer à 20h30.
Pour que, à 20h30, alors, vous l'avez rappelé, il y a un chant commun qui va démarrer le début, qui va
oui.
terminer la fin, mmh. de toutes ces chorales.
De toutes ces
Là
chorales.
Aussi, pour ces chorales, c'est une marque d'investissement que de se mettre ensemble
oui,
pour le
oui,
Burkina.
Oui, 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 c'est super.
C'est super. Eh bien, les auditrices et les auditeurs de RCF qui ont entendu ce message ont bien compris l'importance de cette rencontre. Une soirée chorale au profit du Burkina Faso. C'est le 22 mars, c'est un vendredi, à 20h30, à l'église Saint-Vincent-de-Paul à Reims, dans le quartier Europe, rue de Brazzaville. Merci Josette Defranoux d'avoir été avec nous. Et avant de nous quitter, je vous propose de retrouver des paroles de jeunes avec Pauline, qui a une véritable passion pour le cinéma. Elle est au micro de Jeanne Boudre.
Bonjour et bienvenue dans Paroles de Jeunes. Aujourd'hui, je suis avec Pauline pour parler du cinéma. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Depuis quand est-ce que tu t'intéresses au cinéma ?
Alors, j'ai toujours aimé le cinéma en étant jeune, mais c'est vrai que je me suis découvert une passion depuis bien une année, où je regarde très 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 souvent des films. Au début, je regardais tellement des films d'animation, enfin, en étant enfant c'est normal, c'est ce qu'on regarde le plus. Mais je me suis découvert en fait cette passion grâce surtout aux films classiques français, donc tout ce qui est avec Louis de Funès et tout, Septième Compagnie, etc. C'est là que je me suis dit, waouh, c'est quand même un travail de ouf quoi.
Quels aspects du cinéma t'intéressent le plus ?
Alors, le jeu des acteurs, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on peut savoir directement si un acteur joue bien ou joue mal. On ne dit pas assez, mais dans les films, la musique, tout ce qui est les sons ambiants derrière, etc., ça joue aussi un rôle très important. Et puis aussi, bah, le genre du film, c'est romantique, ça plaît pas forcément à tout le monde. C'est tragique, fantastique, historique, humoristique aussi surtout. Pour ma part, je préfère tout ce qui est humoristique.
Selon toi, à quoi sert le cinéma ?
Le cinéma, ça sert pour moi à se cultiver. Ça permet d'avoir une vision un peu détaillée sur le monde, les cultures du monde. Les films en France ne sont pas les mêmes que les films en Amérique. Pour moi, ça sert aussi à partager donc cette culture-là, mais ça sert aussi à partager des émotions, des conflits, à s'exprimer et peut-être à proposer de nouvelles visions aussi, on peut dire avec le féminisme, ou encore les droits des personnes homosexuelles ou trans.
Par quels moyens passes-tu pour découvrir des films ?
Je vais souvent sur des plateformes de streaming, donc tout ce qui est Netflix, Prime Video, Disney+. Si jamais je ne trouve pas les films sur ces plateformes, je peux aller directement sur Internet, sur un site de streaming. Bon, après, c'est un peu illégal, mais si je les ai réellement bien aimés, je peux les acheter après, parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à le regarder une deuxième fois, ou une troisième si je suis vraiment fan. Aussi, je me rends beaucoup au cinéma. Ces derniers mois, j'y vais 3 fois, voire 4 fois au cinéma. C'est une sortie que je fais avec mon meilleur ami. On va découvrir des films, même si les thèmes ne nous plaisent pas au début. On a souvent des surprises très, très agréables.
Quels sont les projets que tu réalises en rapport avec cette passion que tu as ?
J'ai tendance à faire des mini-scripts, en fait, des mini-scénarios que je fais avec mes amis pour après jouer en rapport avec le film ou, par exemple, on imagine la suite d'une série dans un ton souvent humoristique. Ma deuxième passion, ce serait plutôt pour le scénario, donc j'écris des petits scripts. Et puis aussi, pour ma voix professionnelle, je souhaite être critique cinématographique. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance, après avoir regardé des films, s'ils m'ont plu ou pas, j'en fais la critique et normalement, je la garde pour moi-même. Et donc, c'est pour ça que plus tard, j'aimerais travailler dans un pays anglophone et travailler justement dans ce domaine de cinéma.
Malgré le fait que ce soit une de tes passions, quelle critique pourrais-tu faire du milieu du cinéma ?
Malgré tout, parfois le cinéma ne met pas en valeur certains problèmes. Certains idéaux sont répétés, surtout les stéréotypes. Parfois aussi, il y a une liberté d'expression qui n'est pas respectée dans des pays où justement ce n'est pas très autorisé. Et donc, ça rend un peu un côté faux dans certains films. Ça ne matche pas, ça colle pas. Néanmoins, je trouve que c'est quand même un bon moyen de s'exprimer, de s'assumer justement dans le cinéma, de faire comprendre aux gens comment on voit les choses, comment on estime les choses des personnes. Le cinéma, c'est quand même un très bon moyen de faire passer un message.
Merci beaucoup, Pauline, d'avoir répondu à mes questions. C'est tout pour cette interview et à bientôt dans Paroles de Jeunes.
Voilà, c'était Paroles de Jeunes que vous retrouvez bien sûr toutes les semaines sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes. Il est l'heure de nous quitter, de vous souhaiter une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Demain matin en direct, 7h-8h, Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et les Ardennes. Bonne soirée.